Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Yo, pas comme les autres. Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
Vous écoutez
Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Alors Vincent, la pandémie qui n'a pas le même impact en nombre de résidences ou personnes âgées frappées que le printemps passé, mais intervalle régulier ici et là, on entend quand même des histoires d'horreur, et là c'est le cas dans une résidence des Cantons de l'Est.
Oui, et à chaque fois ça nous ramène des souvenirs là, d'histoires d'horreur de la première vague qu'on espère éviter le plus possible lors de la deuxième, mais malheureusement à certains endroits, ben les conditions se détériorent. Généralement, lorsqu'il y a une éclosion de cas de COVID, c'est ce qui arrive présentement dans une résidence pour aînés de Sherbrooke. Ce sont les employés de la résidence Brooks qui ont tenu à dénoncer la situation à TVA Nouvelles, donc où on parle de résidents laissés dans leur urine pendant des jours, sans être changés ni lavés, pas accès au bain, ça dure depuis plus d'une semaine, les préposés qui disent être complètement débordés, avoir besoin d'aide. Lundi après-midi, la santé publique rapportait 7 résidents, 6 employés positifs à la COVID. En plus, donc, on ajoute le personnel qui est en isolement préventif, donc les ressources qui se retrouvent extrêmement limitées. On manque de monde, on manque de matériel, on manque de temps, ça n'a plus de bon sens, disait une employée, entre autres, le couvert de l'anonymat à un de nos journalistes. On dit que les employés travaillent 12 heures par jour depuis plus de 8 jours consécutifs. On demande de l'aide donc de la Croix-Rouge, des gens du réseau public. Alors, situation qui est très difficile. Et à TVA Nouvelles, on essaie de rejoindre les gens de la direction de la résidence Brooks depuis vendredi. Impossible. Impossible de les rejoindre. Sur place aujourd'hui, un des propriétaires qui a été aperçu et qui répondait pas aux questions. Alors, difficile d'avoir des réponses sur ce qui se passe là-bas. Et un son de cloche aussi inquiétant dans un des plus gros CHSLD du Québec, le centre d'hébergement de l'Hôtel Dieu de Saint-Hyacinthe, où hier, des infirmières ont fait un sit-in, alors ont arrêté de travailler pour dénoncer leurs conditions de travail, constatant qu'ils étaient plus que 3 infirmières pour 64 patients. Là. 3 infirmières, 2 auxiliaires pour 64 en zone COVID. Alors, on peut s'imaginer comme la complexité d'une zone COVID. Ras-le-bol complet, c'est ce qu'on décrit au syndicat avec des...
Ils se plaignent de l'équipement aussi. Là.
Surtout de l'équipement. En fait, on dit que l'équipement est tellement vieux et cheap que, on dit que c'est des masques comme pour aller à l'épicerie. Alors, on comprend que c'est le masque là, de procédure, mais que les jaquettes sont trop petites, les gants ne couvrent pas les poignets, donc des gants trop petits, les jaquettes en tissu sont tellement vieilles qu'ils sont pleins de trous dedans, puis on comprend que pas d'équipement, pas de qualité, ça fait que tu as du personnel qui contracte la COVID ou qui se sent du moins pas protégé pour rentrer au travail. Le 6 de la Montérégie Est s'est dit préoccupé. On dit qu'on n'était pas au courant que l'équipement était inadéquat. Pour ce qui est du manque de personnel, ben c'est un problème qu'on a dans toute la province. Alors, on va essayer de trouver des moyens d'aider. Bon, on comprend
mais quand que c'est pas parfait. Quand les dirigeants comme ça, mettons par exemple du 6 Montérégie Est, là, se disent surpris d'apprendre par TVA Nouvelles ce qui se passe dans leur 6. Là, tu te dis, OK, est-ce que ce sont les gens locaux, syndicats locaux, qui appellent les médias avant d'appeler? Parce que normalement, si tu manques de bon équipement, ou tu sais, tu parles à tes supérieurs, ou tu sais, tu passes par... Avant d'appeler les médias, là, tu passes par les procédures internes.
Oui, t'essaies ton chemin normal.
Ben, t'essaies le chemin normal. Est-ce que c'est les supérieurs qui sont pas à leur affaire? Est-ce que c'est les chaînes de communication à l'intérieur de l'organisation qui sont déficientes? Mais je suis toujours surpris de voir que les dirigeants sont surpris d'apprendre dans les médias ce qui se passe dans un des centres qui est sous leur juridiction. En fait, pas un petit qui est perdu dans le fond d'un rang, qui, tu sais, il dirait, ça, c'est notre, en ordre de grandeur, c'est notre 48e le plus petit, là. Non, le plus gros, un des plus gros CHSLD au Québec. Puis t'es au 6 de la Montérégie, puis t'apprends ce qui se passe là, puis tu dis, on est étonné.
Parce que tu dis sur place, là, mettons un gestionnaire là, qui est un peu au courant, tu dis, ben, c'est sûr que les employés font juste se plaindre, là, s'ils ont des gants trop petits, ben oui. Les jaquettes font pas, sont toutes trouées. S'il y a un superviseur qui passe, ben, c'est la première chose que tu vas dire. Donc, on s'attend à ce que ça fasse que ça monte la chaîne de commandement.
On va en parler, puis c'est ça, que ça va remonter. Quelqu'un va dire, ben là, faut acheter du nouveau matériel, faut fournir du meilleur matériel. En tout cas,
c'est des bonnes questions, effectivement.
Parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais sans dire long, disons, sur la qualité de la communication à l'intérieur. Scène d'horreur ce matin pour nous, c'était l'après-midi là-bas en Allemagne.
Oui, vraiment une histoire terrible qui frappe l'Allemagne aujourd'hui. En fait, on parle d'une voiture folle, ou un conducteur fou là, qui a foncé sur des piétons à Trèves, donc en Allemagne. Tu vois, au moins 4 personnes, dont un bébé. Là. Et on voit, les images sont terrifiantes, avec une poussette là, qui a été frappé par le véhicule. Probablement là, que le bilan va augmenter parce qu'on parle d'au moins 15 blessés, dont certains dans un état grave. L'homme donc qui a été arrêté, le conducteur, un homme de 51 ans, un Allemand, semble pas qu'il y ait de signes de motivation politique. Là, c'est pour ça qu'on semble vraiment penser qu'il y a un problème psychiatrique derrière ça. D'ailleurs, certaines personnes qu'il connaissait parlaient aux médias comme étant quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale. Le conducteur, donc, qui roulait à vive allure, a heurté, écrasé des passants carrément au hasard. La porte-parole d'Angela Merkel a dit aujourd'hui: ce qui s'est passé à Trèves est choquant. Nos pensées vont aux proches des victimes, aux nombreux blessés, à tous ceux qui sont en ce moment en service pour s'occuper des personnes touchées. On voit donc dans une courte vidéo là où on pouvait apercevoir les dommages. Malheureusement, des corps allongés, des débris un petit peu partout sur la chaussée. La voiture qui aurait parcouru à peu près 600 mètres un peu plus loin avant d'être arrêtée. Alors, une triste histoire. On verra si le bilan augmente, mais ça ébranle l'Allemagne aujourd'hui.
Mais ça, la compagnie, le fabricant canadien BlackBerry a été un jour une étoile des téléphones cellulaires. L'action de BlackBerry avait monté, puis les cellulaires BlackBerry, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a décliné largement. Mais là, rebond aujourd'hui, regain de vie pour BlackBerry dans un nouveau secteur.
Ouais, et l'action bondissait d'à peu près 50% là, à Wall Street après cette annonce. Quand tu t'associes à Amazon, généralement,
c'est
bon signe. Alors, les deux qui s'associent pour développer et commercialiser une plateforme dédiée aux véhicules connectés. Donc, on sait de plus en plus les véhicules vont être connectés, même autonomes. L'objectif, c'est de centraliser les données qui sont recueillies par les différents capteurs des voitures intelligentes et s'adapter en fonction des informations. Parce qu'il y aura plein de plateformes différentes. Les véhicules vont se connecter. L'objectif, c'est que tous ces véhicules-là puissent se partager de l'information. Alors, par exemple, si toi, ton véhicule là, se retrouve derrière un véhicule qui frappe de la glace, par exemple, ou de la glace noire, ton véhicule pourrait être averti, par exemple.
J'avais pas compris qu'est-ce que c'était. C'est que les véhicules se parlent.
Mais pourraient se parler. En fait, c'est que si tu peux centraliser les informations, écoute, avec la 5G, entre autres, qui arrive, t'as une infinité de possibilités, là. S'il y a un accident plus loin, les véhicules qui pourraient être avertis, s'il y a des changements dans des travaux, par exemple. Alors, toutes sortes d'informations qui peuvent être utiles. Alors, t'imagines, au Québec, ça pourrait être quand même pratique, là. Ça dit plaque de glace qui s'en vient. T'as pas besoin que quelqu'un lampe, par exemple, sur Waze en disant, en conduisant, ben, il y a une zone dangereux.
Donc, les roues de l'autre véhicule ont dérapé sur de la glace.
Le véhicule le reconnaît, puis ça émet l'avertissement au véhicule précédent. C'est le genre de truc qu'on pourrait voir dans l'avenir. Et tu imagines quand même les débouchés. Alors, Amazon et BlackBerry s'associent pour tout ça. Alors, l'immense dossier des véhicules connectés. C'est le projet s'appelle IVY, donc IVY, et permettra donc d'identifier le comportement aussi de la personne au volant, les conditions dangereuses, recommander que le conducteur actionne des options de sécurité, par exemple, comme le contrôleur de l'adhérence, l'assistance pour garder sa voiture sur la voie, le régulateur de vitesse. Tout ça, évidemment, on veut le faire de façon sécurisée. C'est un peu l'expertise de BlackBerry, hein, qui s'est reconverti dans les dernières années dans le service de sécurité informatique aux entreprises, centralisation de données. Alors, ceux qui avaient perdu beaucoup d'argent avec BlackBerry, mais qui ont gardé leurs actions, vous avez eu une bonne journée aujourd'hui.
Un nouvel espoir.
Et on espère que ça se passe bien pour BlackBerry.
La Chine qui a atteint la surface de la Lune.
Oui, mission accomplie pour l'instant dans une phase critique de cette mission, le Chang'e 5, qui s'est posé sur la Lune dans les dernières heures. Ça a été confirmé par les responsables de la mission. Faut dire que ce robot, quand même intéressant, là, parce qu'on se pose sur Oceanus Procellarum. Mario, je sais pas si tu le traduis en...
Oceanus, le deuxième mot, c'est quoi?
Procellarum.
Procellarum, non, je sais pas.
C'est océan de tempête.
Ah, tempête, non, alors, je l'aurais pas su.
Il n'y a pas beaucoup de
tempêtes. Océan, oui, là, c'est facile. Mais...
Oui, il n'y a pas beaucoup de tempêtes sur la Lune, mais c'est une zone qui est intéressante. Entre autres parce qu'on ira avec ce robot chinois forer donc sur la croûte de la Lune pour aller chercher des échantillons de sol qu'on va ramener sur Terre pour la première fois depuis plus de 40 ans. La dernière mission qui avait ramené des échantillons lunaires, c'est une mission soviétique en 1979. Donc, on pourra les analyser et analyser surtout surtout de la roche plus jeune de la Lune qui permettra d'en savoir davantage sur sa composition. Alors, c'est une partie évidemment critique. Le reste à percer le sol lunaire, recueillir à peu près 2 kilos de roche lunaire, redécoller et
ramener ça en Chine.
Ramener ça au, sur Terre. Alors qu'on comprend que c'est une mission très, très complexe qui montre quand même que les capacités chinoises en matière de conquête spatiale se sont beaucoup améliorées dans les dernières années. Alors pour l'instant, ça se passe bien pour la mission.
Là, hier, la semaine passée, tu nous as parlé d'un monolithe apparu, donc un morceau de métal très lustré apparu comme par magie en Utah.
Oui.
Hier, Alex nous a fait tout un résumé que celui-là en Utah était disparu.
Oui.
Il y en a un autre qui est apparu en Roumanie.
Et là, il n'y en a plus de monolithe. Parce que celui en Roumanie s'est aussi volatilisé dans les dernières heures. Pourquoi on l'ignore? Enfin, il faut rappeler que c'est dans sur une colline de Roumanie là, qu'on a reperçu. Il faut vous dire que c'est une station de radio qui a reçu un message comme quoi il y avait un monolithe. Ils se sont rendus. Puis effectivement, un monolithe, plus une copie un peu cheap là, de ce qu'on retrouvait en Utah, mais qui a la même forme. Et ça s'est mis à... Dit que les médias locaux n'ont pas beaucoup parlé, mais sur les réseaux sociaux, ça a fait le tour du monde assez vite. Et il n'est plus là. Pour une raison qu'on ignore, tout comme ce qui s'est passé en Utah est pas toujours clair, quoique là, il y a certaines images qui ont sorti, ce serait probablement des environnementalistes qui ont brisé la structure de métal, disant que c'était pas ce qu'on devait faire, donc installer des structures comme ça en pleine nature. Alors on
cherche... des écolos qui ont détruit le beau monolithe.
C'est ce qu'on pourrait croire.
Bon.
Alors, ils ont même détruit dans les images, semble vraiment détruire le monolithe en question là, pour le briser, pour dire que c'est ça qui arrive là, quand on installe des structures comme ça dans des parcs mais naturels.
Oui. Et c'est-à-dire que c'est... Une grosse pollution, c'était une roche sur de la roche, là, un morceau de métal sur de la roche.
Tout à fait. C'était pas envahissant, là.
Non.
Disons, surtout c'était dans un coin qu'on connaissait pas. Et des YouTubers qui avaient réussi, des randonneurs à repérer les indices, parce qu'on n'avait pas dit c'était où. Hein. On voulait pas justement que les touristes s'amassent autour du monolithe mystérieux. Alors on n'avait pas donné sa localisation, mais certains l'ont trouvé. Et là, il y en a plus de monolithe nulle part. Puis on sait que c'est probablement l'œuvre d'un artiste qui est décédé il y a quelques années et qui avait dit à ses enfants qu'il allait installer une structure du genre dans un endroit inconnu.
C'est le mystère de la semaine.
C'est le mystère de la semaine. En même temps, il y en aura peut-être qui vont pousser partout des gens en quête de publicité aussi, là.
Ouais.
Alors, on en verra peut-être d'autres.
À suivre.